Je vous invite à la prière avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, viens semer en nous ta parole et permets qu'elle s'enracine dans le terreau de notre vie. Permets aussi qu'elle produise du fruit en abondance. Et comme le bon grain pousse au milieu de l'ivraie, donne-nous de grandir dans la foi et l'espérance, sans porter de jugement sur ceux qui nous entourent. Amen.
Amen.
Alors je vais lire dans Luc au chapitre 13, les versets 1 à 9. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer des Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit : Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tout comme eux. Et Jésus disait cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron : Regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le donc. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ? Mais le vigneron lui répondit : Maître, laisse-le encore cette année. Je creuserai la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le couperas. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, ce texte de Luc se compose de 2 parties. La première, c'est donc la narration de 2 événements concernant la répression sanglante de Galiléens perpétrée par Pilate et la mort tragique de personnes suite à l'effondrement de la tour dite de Siloé. Et puis la deuxième partie, la parabole du figuier stérile, promis à l'abattage, car cet arbre ne produit pas de fruits depuis plusieurs années. Ces 2 textes s'éclairent mutuellement. Rappelons d'abord le contexte à ce stade de son ministère, sa montée vers Jérusalem. Jésus est de plus en plus confronté au manque de foi de ses contemporains. Il est confronté à des opposants. Il est alors interpellé par quelques personnes qui lui rapportent des cas de mort violente. On ne connaît pas précisément le contenu de ces échanges, mais Jésus perçoit une arrière-pensée dans ses interlocuteurs qu'il traduit par cette question. Pensez-vous que ces personnes qui sont mortes étaient de plus grands pécheurs que vous ? Autrement dit, y a-t-il un lien entre le péché des victimes et les conditions de leur mort ? Le jugement de Dieu prendrait-il en compte ce que l'homme a fait de bien ou de mal dans sa vie ? Et la souffrance de l'homme serait-elle le résultat de son péché ? Dans cette perspective, Dieu serait comptable et il distribuerait récompense et punition. Jésus réfute par 2 fois toute relation entre un événement dramatique et le degré de culpabilité des victimes. Il affirme sans ambiguïté que cette idée de cause à effet est fausse. Il n'est pas question de mériter ou non de mourir, et ainsi d'être soumis à une justice divine qui relèverait de je ne sais quelle comptabilité. Il n'est pas question non plus de rendre Dieu responsable du mal qui arrive aux hommes, dans le sens où il serait à l'origine des événements dramatiques de la vie. Ceci dit, sans annoncer une mort prochaine pour ses interlocuteurs, Jésus interpelle et il indique la nécessité pour l'homme de prendre conscience de sa condition pécheresse et donc de se convertir. C'est parce que l'homme est pécheur qu'il est menacé de mort, de perdition, car il est coupé de Dieu, de la vie et de l'amour. Alors les auditeurs de Jésus sont devant un choix, se convertir ou se perdre, et leur choix engage tout leur avenir. Jésus met l'accent sur la nécessité et l'urgence de la conversion. Se convertir, une nécessité d'abord. Le plus important n'est pas là où on en est en ce moment, mais là où on va, celui vers lequel on se tourne et qui va nous accompagner sur un chemin de vie et non de mort. Pour cela, il est nécessaire de se reconnaître pécheur et d'aspirer au pardon de Dieu. Il s'agit de prendre conscience d'un manque, d'un besoin, besoin de Dieu, besoin d'accueillir la grâce du pardon. Se convertir, c'est aussi une urgence de chaque jour. Nous sommes exhortés par Jésus à changer notre façon de voir, plus qu'à obéir à une morale. Et cela pas une fois dans la vie, mais sans cesse. Dans la suite vient cette parabole, comme souvent dans la Bible, pour illustrer ce qui vient d'être dit. Et si vous avez remarqué, la conjonction de coordination entre les deux textes indique bien le lien. Et il dit cette parabole. Donc c'est l'épisode du figuier stérile, qui ne produit rien depuis 3 ans. Alors dans cette parabole, il y a 2 personnes qui sont mises en scène. 2 hommes que tout semble opposé, mais juste en apparence seulement. Le propriétaire de la vigne, qui est planté d'un figuier en son centre, et le vigneron qui est chargé de l'entretien de cette propriété. L'un s'impatiente devant un arbre qui ne produit pas de fruits et qu'il faut couper tout de suite, et l'autre plaide pour attendre encore 1 an, en espérant que le figuier va se remettre à produire avec beaucoup de soin. Dans un cas, c'est l'abattage, sans laisser aucune chance. Dans l'autre cas, c'est un sursis qui est demandé, un peu de temps, comme pour envisager un changement de situation. Qui est le vigneron? Qui est le propriétaire de la vigne? L'histoire ne le dit pas. Mais la vigne ou le figuier dans la Bible sont souvent comparés au peuple de Dieu. Alors je voudrais faire 2 remarques sur ce récit et puis voir le lien ensuite entre les 2 récits. Première remarque, la déception profonde du propriétaire de ne trouver aucun fruit depuis 3 ans. Dans cette petite phrase, il ne trouva rien, pas un seul fruit, rien. C'est la détresse d'un homme qui avait placé toute sa confiance dans cette plantation et dans ce projet. Détresse d'un homme qui semble avoir échoué. Déception profonde du propriétaire qui a fait preuve de patience et au bout de laquelle le verdict tombe. Il faut couper l'arbre. Le jugement est définitif et radical. À l'image du figuier, c'est comme si le peuple restait sourd à l'amour de Dieu dont il est l'objet. Détresse de Dieu devant un peuple endurci, insensible à la patience qui lui a été accordée. 2e remarque, l'intercession du vigneron. Il demande du temps, 1 année supplémentaire, mais peu importe la durée. Le plus important, c'est la patience qui est plaidée par le vigneron et qui traduit toute l'attention qu'il veut porter à cet arbre dont il prend soin. Et aussi la patience pour lui laisser le temps de vivre à son rythme et de produire du fruit. Il va labourer, bêcher, enrichir de fumure. Il ne va pas ménager sa peine. Alors ce dialogue entre le propriétaire et le vigneron exprime une tension, je pense, et une tension plutôt positive, entre d'un côté l'urgence de produire et de l'autre la patience et l'espérance. On peut le dire autrement, tension d'une part entre l'amour infini de Dieu pour tous, qui est exprimé dans la nécessité de cette conversion, et puis d'autre part la patience miséricordieuse de Dieu pour son peuple. Cet amour infini s'est manifesté en Jésus-Christ par la parole faite chair, Jésus-Christ, notre intercesseur, qui comme ce vigneron espère en nous. Tout au long de son chemin sur terre, il a intercédé jusqu'à sa mort par ses paroles « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors il n'est plus question de s'apesantir sur notre culpabilité, plus question de récompense ou de punition. Il est question d'une relation que Dieu veut tisser avec chacun d'entre nous. Elle traduit l'espérance qu'il a en nous, l'espérance de nous voir changer de vie, de nous voir attendre tout de ses soins pour produire du fruit. Et il n'y a pas de délai pour cela. Les temps sont dans sa main. Et Dieu sait ce qu'il nous faut et quand il nous faut. Il sait aussi qu'il faut du temps pour que notre compréhension de sa promesse fasse son chemin en nous et nous féconde. Personne n'est jamais perdu aux yeux de Dieu, car il connaît chacun là où il en est et sa patience est infinie pour nous amener à produire du fruit. Ne désespérons pas de nos sécheresses, de nos incapacités. Vivons-les plutôt comme un besoin, un manque qui nous amène à choisir un chemin de conversion où Dieu nous accompagne avec patience, nous nourrit et nous enrichit par sa parole et son amour donné. Alors ce matin, repartons avec ces mots, urgence de la conversion, patience et espérance de l'amour infini de Dieu pour ses créatures. Et j'ajouterai sur un ton mi-figue, mi-raisin, pour plaisanter un petit peu, abstenons-nous de juger de la qualité des fruits des uns et des autres. Dieu seul jugera, et au moment voulu par lui. Amen. Amen.